Coucou, c'est Romain Grignan. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Alors, le jeu de la bête est actuellement en pré-vente sur la boutique romaricbriand.fr. Je vous rappelle que c'est l'occasion d'acquérir le jeu à prix coûtant. Le jeu de la bête, c'est un petit jeu de cartes. C'est un jeu de société à la Age of Empires. Un jeu de construction de village. On construit son petit village, on développe sa communauté. Les cartes, ce sont des lieux ou des objets qu'on a dans la main. Et puis, on place dessus en fait, des petits D6 qui vont représenter des villageois ou des villageoises. On va les déplacer à droite, à gauche. Ils vont faire des actions. Et le tout, c'est pour lutter contre une espèce de bête fantastique qui va attaquer en fait, votre village toutes les nuits. Et cette bête, en fait, elle va être représentée par des cartes qui forment un espèce de tas qu'on appelle le jeu de la bête. Ce sont des cartes ennemies qui sont rassemblées dans un espèce de paquet. On va tirer une carte toutes les nuits et elle va faire du mal à notre communauté. Voilà, le jeu se joue en solo ou en duel. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un bel article sur Patreon pour expliquer ma démarche éditoriale et puis une petite vidéo aussi pour expliquer le jeu et vous montrer une partie en fait, parce que je voulais que la vidéo soit courte, donc j'ai pas fait toute la partie, mais voilà, j'ai fait une partie d'une partie. Je vous rappelle au passage que Patreon, c'est une plateforme de financement participatif sur laquelle chacune d'entre vous peut se délester de quelques euros par mois pour me soutenir et soutenir la cellule. Si vous aimez la cellule et même mon travail, quoi, si vous aimez votre rendez-vous quasi mensuel avec la cellule, les podcasts, tout ça, eh ben, Patreon, c'est une façon très simple, très efficace et sans engagement. Vous pouvez quitter le Patreon à tout moment. C'est une façon très simple et efficace de me soutenir, de soutenir ce podcast. Et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, à nous soutenir. Et ça nous fait super plaisir. Ça nous fait très très plaisir. Merci, merci à tous et à toutes. Merci de votre soutien. Allez, je vous laisse avec votre podcast quasi mensuel. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast, j'ai plus de voix, sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec Alex de la Citadelle.
Salut, comment ça va?
Ça va, pêche, la banane. Tu es venu avec Julia, bonjour.
Et bonjour.
Tu es avec Caro.
Bonsoir.
Avec Flavie.
Bonsoir.
Avec François.
Salut.
Avec Géraldine.
Bonsoir.
Ça baisse en intensité. Et avec Claire. Ça va la pêche. Et aujourd'hui, Alexandre, c'est toi qui nous ramène ce jeu incroyable. Oui, Seigneur des Ténèbres.
C'est ça, également appelé Rigor Mortis. Je ne sais pas pourquoi.
Alors, mais ça date de quand, ça? Pourquoi boîte, elle est passée par le soleil?
Alors, pourquoi la date? Alors, exact, ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est le premier ou l'un des premiers jeux un peu différents des Uno, etc., que j'ai dû acheter quand j'étais ado. Avec à l'époque Munchkin et des trucs comme ça. Donc je l'ai usé.
Ah ouais.
Ça fait un petit coup de cœur quand même d'en parler dans la cellule parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et voilà.
Et qui colle complètement à la ligne éditoriale qui avait fixé Flavie cette année de tester des jeux de société qui sont à la fois entre le jeu de société et le jeu de rôle et qui mettent justement une dimension narrative dans les jeux de société.
C'est surtout d'essayer de trouver en fait dans le commerce des jeux qui sont un peu middle et qui questionnent en fait toutes ces limites, parce que moi je pense que plus ça va, moins il y en a des limites.
Alors vous avez vu un peu ce moment de podcast incroyable, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas fini son bonbon, j'ai meublé le temps qu'elle... voilà. Et ça,
oui, après, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on mange dans les micros, je les comprends.
En tant qu'animateur, ça m'est reproché. Les gens disent, mais ils monopolisent la parole, non, alors que pas du tout.
On sent l'expérience qu'on a autour de la table.
Tu vois, je permets aux gens de manger leur mahouam. Voilà, je tenais à le dire.
Oui,
voilà.
C'est vrai, parce que des gens à l'époque où tu le faisais pas nous ont reproché de manger dans les micros et d'entendre des bruits. Voilà.
Et j'ai même vu des podcasteurs finir la soirée en prenant leur bière à la place du micro. Maxime, si tu nous écoutes. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que, Alex, merci de nous amener ce jeu. J'ai l'impression qu'il date un petit peu de l'époque Elixir, tout ça, non?
Oui, c'est un peu ça, oui, exactement, un peu... c'est ça, il n'y a pas de date sur la boîte. J'ai bien regardé, mais j'ai pas trouvé de date.
T'as pas trouvé de date,
Moi, je dirais que, de mes souvenirs, ça doit être du 2005, quelque chose comme ça, même un peu avant.
Donc on est autour justement des années des années chevaliers de la, enfin un peu avant les années chevaliers de la table ronde, dans cette période où le jeu de société est encore, enfin ce type de jeu de plateau est encore un peu niche en fait. C'est pas encore le jeu de société, le jeu de plateau qu'on connaît aujourd'hui avec un énorme marché où il y en a partout, voilà, et beaucoup de jeux spécialisés et tout ça.
Mais c'est un jeu qui a quand même qui a été assez connu parce que je pense, enfin, je suis quasiment certain qu'il y a au moins une extension. Avec des cartes en plus, parce que bon, à force de jouer les 80 cartes, on les connaît un peu. Donc, il y a une petite. Ça a bien marché, quoi.
Et tu vois, ça me fait penser aussi à Munchkin. Qui c'est qui disait en préparation du podcast ? Et toi, Caro ?
Oui, c'est le premier truc que je t'ai dit quand tu m'as montré la boîte. C'est. Oh, on dirait le Munchkin.
Oui, ou les colocataires, tout ça. Ouais.
Et ça doit être à peu près en fait la même année. Tandis que Géraldine sort les berlingots. ASMR, c'est bien. Non, François, t'as trouvé la date ?
Alors, pas encore, parce qu'en fait, je regarde aussi, parce qu'il y a l'impression qu'il y a plusieurs versions, ouais. Et je suis presque sûr d'avoir joué il y a 15 ans maintenant à une version un peu... Je sais plus si c'était celle-là ou une autre, donc ça me revient en cours de route, mais je continue de chercher.
C'est un jeu...
Il existe encore, hein. Il existe encore avec des illustrations, on va dire, réactualisées, moins belles du coup.
D'accord. Regarde, le puriste.
Bah oui.
Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Alors qu'est-ce que c'est, Rigor Mortis ?
Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un jeu où il y a un maître du jeu, on va dire, qui dirige un petit peu le temps de parole des joueurs et qui régule un peu. Et chaque personne est invitée à jouer un minion, donc c'est-à-dire un serviteur du grand maître des ténèbres.
Oui.
Et ils sont tous partis en mission, ils ont tous raté la mission. Et le grand maître des ténèbres va les engueuler et eux vont devoir se justifier. Et ils ne peuvent se justifier uniquement qu'avec les cartes excuses. Et les cartes excuses, c'est une image, un titre et une petite description.
D'accord.
Et c'est un objet, un lieu, un personnage. Et ils ne peuvent se justifier uniquement avec ça. Donc si je tire la carte... Le serviteur suppurant, je ne peux uniquement parler du serviteur suppurant. Je ne peux pas dire, on était sur un pont, si je n'ai pas la carte pont.
D'accord.
Donc je dois uniquement utiliser ça. Je peux dire, oui, il avait une grande robe rouge, parce que sur l'image, il a une grande robe rouge. Je peux dire que c'était un apostat de la secte du dragon occulte, parce qu'il y a marqué. Ça, je peux le dire. Mais je ne peux rien dire d'autre.
On n'a pas le droit de faire des propositions avec... Alors là, je vois pas tellement ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire à ce stade. Bah, tu vois ce que je veux dire ?
Tu peux dire.
Plusieurs cartes, on a plusieurs cartes.
Oui, bien sûr. On a toujours trois cartes en main. Mm-hmm. Et tu peux en jouer une, deux ou trois d'un coup. Et tu peux surtout rebondir sur les histoires des autres. Ah. Et comme c'est un jeu qui se joue de 4 à 16, finalement, plus on est, plus il y a une histoire et plus on va rajouter une petite miette, on va rajouter ça. Ah, mais t'as laissé tomber l'épée parce que t'as la carte épée. Mmh. Ah, mais on devait payer un ticket pour aller dans la montgolfière parce que t'as la carte montgolfière.
Donc t'as la carte épée, donc t'as le droit de dire t'as laissé tomber l'épée quand même.
Oui.
C'est pas uniquement l'épée. L'épée.
Oui, tu peux en faire ce que tu veux. Okay, tu peux en faire ce que tu veux. C'est un objet. Après, tu peux dire t'as tué quelqu'un avec l'épée, t'as laissé tomber l'épée, t'as acheté une épée, ça marche.
Ok.
Ces cartes excuses, donc ces cartes histoire, on les appelait comme ça, sont accompagnées de cartes action, qui sont des cartes où on voit donc un doigt qui pointe vers quelqu'un ou une main, qui vont permettre soit d'interrompre un joueur.
D'accord.
Pour l'embêter.
Et si on montre la main avec la carte.
C'est ça. Donc, par exemple, Romaric, tu me dis oui, j'avais acheté une épée, etc. Et moi, je dis ah, stop, je t'interromps. Et je dis oui, mais t'avais acheté une épée uniquement pour te faire bien voir
avec ta grande
du minuscule gardien.
Ah,
tu vois, là, j'interromps et je te mets un petit truc dans les.
Putain,
c'est toujours ton tour de parole, okay. Mais maintenant, tu dois. Enfin, ce que je dis est acté.
Ouais.
Donc, tu dois
prendre ça en compte.
Avec ça. Ouais. Et l'autre action, c'est donc le doigt qui pointe, et le doigt qui pointe, c'est pour rejeter la faute. Donc, à la fin de mon histoire, je dis oui, on est tombé du pont, etc., etc. Mais c'était à cause de Julia. Et je joue la carte, donc
qui
pointe,
Julia,
voilà,
ouais.
Parce que on est tombé du pont, parce qu'elle était trop lourde, parce qu'elle avait emmené trop de bière des nains.
Okay,
voilà.
D'accord.
Et dans ce cas-là, c'est le tour de parole de Julia.
Ok, donc tu lui passes la parole, mais c'est tu ça. Lui passes aussi la patate chaude.
Voilà, moi, alors, je dis moi en tant que,
Personne qui
qu'un
indique,
joueur, hein, pas le maître
avec
du
la,
jeu.
Oui, oui, bien tant qu'il indique.
Pas le grand seigneur.
On peut cibler que le joueur qui est à côté de soi ou ça peut être n'importe qui autour
n'importe
de la table.
Qui, okay. N'importe qui. Il y a une petite règle qui fait qu'on peut pas sans arrêt faire de rebond entre deux personnes parce que maintenant ça devient un peu agaçant. Ouais. Donc tout ça, ça crée des histoires et bien sûr, ça va créer des histoires avec. Sur deux, trois étages, on va commencer à se perdre en circonvolution, on va commencer à raconter plein de trucs. Et le grand seigneur des ténèbres, en fait, lui, va mettre des blâmes. Il a des, comme des cartons rouges.
D'accord.
À un moment, quand l'histoire est trop longue, c'est pas clair, ça s'interrompt, ou pour n'importe quelle raison, eh ben, il met un blâme à quelqu'un.
Ouais.
Okay. Et donc, les personnes comptent leurs blâmes. Et il y a trois blâmes, en fait. Et au troisième blâme, et ben là, il va y avoir une décision finale où la personne qui aura eu ce troisième blâme devra faire une ultime supplication. Et on va tirer une carte de cette pile-là.
Ouais, ouais.
La première, s'il y a un symbole tête de mort, c'est lui le perdant de la partie, parce qu'il y a un seul perdant. C'est ça qui est rigolo. Et s'il n'y a pas de tête de mort, il s'en sort et on continue à jouer. Mais il est sur la sellette.
Ok. Ouais, parce que s'il prend encore un blâme, il arrive à 4 blâmes.
Et bah, s'il prend encore un blâme, on tire encore la carte. Et
c'est ça. À partir du moment où on est sur le troisième blâme, on commence à être sur siège.
Alors, ça, c'est une règle que je fais des fois ou pas, parce que selon le nombre de personnes, les blâmes peuvent aller plus ou moins vite. Là, on joue quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 personnes.
Peut-être avec Soren en plus.
Peut-être 8 personnes. Donc, si tout le monde a 2 blâmes à un moment, on peut jouer pendant 2 heures.
D'accord, ok.
Après, c'est le rôle aussi du maître du jeu slash gardien d'imposer un peu de rythme. Et quand quelqu'un commence à bégayer, hop, bim, tu mets un blâme, comme ça, ça met un petit coup de pression. Okay. Et ça relance un peu la partie.
Tu seras notre maître des ténèbres ce soir, Alexandre.
Hein. Du coup, ma question, est-ce qu'on doit t'appeler Caro. Oui, seigneur des ténèbres.
Bah, exactement. Et vous êtes invité à me vouvoyer, à me donner vos parts de pizza, etc. Il y a marqué, ça c'est dans
vous
les règles. C'est dans les règles, hein.
Seigneur des ténèbres.
Exactement, exactement.
Elle vient de sortir un berlingot de sa bouche pour le lui donner. Hein.
Voilà.
Donc là, t'as 2007 la date de sortie.
Ouais, 2007, ça, ouais.
Ok.
Et donc il y a un côté
un peu cartoonesque.
Moi, j'imagine toujours Hadès dans Hercule, qui s'énerve parce que ses minions sont incapables et qui dit j'en ai marre, vous avez tout raté, et qui eux viennent en rampant pour dire pardon, nous sommes désolés, voilà.
Erreur, et comment il s'appelle déjà.
Donc c'est le maître, c'est ce qui reste dans son donjon qui ne sort jamais finalement faire la mission lui-même. Mais voilà, donc j'imagine toujours Hadès.
Je peux être un farfadet.
Vous pouvez être qui vous voulez.
Tu choisiras. Ouais. Y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions les uns les autres? Je voulais te poser une question quand même, Alex. Est-ce que la règle, tu m'avais dit que tu n'utilisais pas toutes les règles du jeu,
oui,
qu'il
y
avait une règle que tu occultais.
En fait, il y a des règles pour tirer les cartes. Si quelqu'un nous a pointé du doigt, on doit tirer une carte à ce moment-là et pas après. Enfin bon, et je trouve que ça interrompt un peu la narration, donc il y a une règle toute simple qui est on doit toujours avoir, enfin que moi j'ai appliqué, c'est on a toujours en main 3 cartes excuses et 3 cartes actions. Comme ça on a le choix, on n'est pas obligé de jouer si on a une carte qui vraiment nous arrange pas du tout, on en a au moins 2 en plus d'histoire, et on a toujours au moins un interrompre et un rejeter la faute en main. Comme ça, ça permet de ne pas être bloqué. Parce que si le Seigneur des Ténèbres va dire et toi t'as pas beaucoup parlé et que t'as vraiment rien à faire, bah tu vas te prendre un blâme, mais c'est pas ta faute, c'est un peu la faute de ta main. Donc c'est plus sympa quand ça
okay.
déroule un
c'est
peu
pour recycler,
on a le choix quoi.
Voilà, ok, c'est un petit mulligan quoi.
Oui, voilà, c'est okay. ça. Donc ça aille un peu plus vite et qu'on se dise pas attends, est-ce que je dois tirer une carte ou pas, ou bon voilà,
ok,
comme ça c'est plus fluide.
Très bien, des questions autour de la table?
Ah, très bien, on dit oui Seigneur des Ténèbres.
Oui Seigneur des Ténèbres,
on sait qui va être la faillotte.
Ah ouais, ça c'est sûr.
Je lui ai offert un berlingot.
Ah ouais. Okay.
Et il était pas baveux.
Excellent. Donc pas de questions. On y va. On y go. Allez, c'est parti. On joue. Ah ouais. Tu fais vachement bien le cochon.
Je suis pas trop mal le cheval.
Ah, vas-y, vas-y. Mais c'est un don, hein. Pierre, faut le voir, il se donne, mais alors... Ah là là, t'es beau quand tu fais le cochon. Est-ce que tout le monde est là?
Oui.
Ah, on change de Seigneur des Ténèbres, là. C'est plus la même chose. C'est moi, le Seigneur des Ténèbres. Ah, vous êtes mes mignons. Ah, mes mignonnes.
On aime tellement ça.
François.
C'est vrai que tu fais peur.
Dis-moi, pourquoi ce jeu de rôle a foiré lamentablement? Ou au contraire.
C'est à cause de la costéenne, hein, tout a merdé, tout est parti de là.
Alex, est-ce que c'était prototypique de Seigneur des Ténèbres? Enfin, comment c'est déjà
Rigor oui, Mortis, Seigneur oui, Seigneur des Ténèbres. Complètement.
Prototypique.
Complètement prototypique.
Ça ressemblait au parti.
J'avais jamais joué avec autant de joueurs. Finalement, on était 8 joueurs plus le maître du jeu. Ouais. Donc, quand même, on a épuisé le paquet de 80 cartes.
Ouais.
Ce que j'avais jamais fait, non.
Ok. Donc, est-ce que ça a donné lieu à une dynamique particulière que tu as pu observer là ou...
Ce qui se passe, c'est que. Après, il y a toujours un petit peu la même chose qui se passe, c'est qu'on arrive souvent où tout le monde a quasiment deux blâmes. Et on fait un rapide tour de table pour calculer un peu le temps qui reste à jouer pour essayer de finir quoi.
Ok. Alors, au niveau du dispositif, je pense qu'on a tout dit dans la présentation. J'ai pas vu quelque chose de spécial en termes de règles qu'on aurait omises au début de l'émission. C'est vraiment ça. On a des cartes dans les mains. On les joue. Il y a ces deux cartes, la carte main dressée et les cartes indiquées qui donnent en fait l'autorisation donc d'interrompre quand c'est la main levée, d'interrompre quelqu'un qui est en train de faire une narration
et de
rajouter un élément de sa main. Et la carte doit montrer qui permet de montrer quelqu'un et de lui donner la parole en fait.
Ça, de le forcer à.
Indépendamment du Seigneur des Ténèbres. Parce que c'est toujours le Seigneur des Ténèbres, donc le maître de jeu, qui distribue la parole dans ce jeu.
Normalement, il peut aussi regarder les joueurs qui vont s'auto-accuser et se passer la parole.
D'accord.
Mais à un moment, comme tu l'as vu aussi, tu regardes un peu qui n'a pas trop joué de cartes. Et de toute façon, le maître du jeu slash Seigneur des Ténèbres, à un moment, on peut dire, même si quelqu'un joue, interrompt ou accuse, non, je veux pas savoir, je veux l'entendre lui. Mmh. Pour vraiment faire parler la personne qui n'a pas encore assez parlé,
donc,
on va dire.
À savoir qu'on a fait deux parties de Seigneur des Ténèbres. La première, t'étais maître de jeu, la deuxième, c'était Flavie qui était maîtresse du jeu. Donc, ouais.
En fait, en tant que maîtresse du jeu, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, là, le maître du jeu, il essaye vraiment de repérer qui a parlé, qui a parlé. Et vraiment, quand on voit que ça fait quelque temps qu'il y a quelqu'un qui a pas parlé, en fait, on essaye de redonner la parole. Donc déjà, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant en tant que maître du jeu. Et en fait, on n'a pas du tout la même posture quand on est maître du jeu que quand on est mignon. Et du coup, c'est une vraie posture de personne à convaincre, en fait. Donc, il faut montrer qu'on est quelqu'un...
Quand t'es mignon, l'objectif, c'est de convaincre...
C'est de convaincre, du coup, le maître du jeu, ouais.
D'accord.
Donc, on est vraiment... Donc, il faut jouer la personne à convaincre. Et en même temps, on est une personne qui doit être convaincue. Mais il faut vraiment distribuer la parole et faire bien attention à tout ce que tout le monde va dire. Et essayer de tout retenir, sachant qu'il y a beaucoup d'informations très, très vite et beaucoup de trucs contradictoires. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de pointer les trucs contradictoires pour aider aussi les autres à relancer. En fait, le maître du jeu, il a vraiment une posture de relance de la narration, en fait. Et de relance, en fait, de rapportage. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour vous forcer à rapporter et agiter comme une sorte d'étendard le jeton qu'on va vous mettre devant pour vous faire peur et vous faire que ce soit vous qui perdiez. Et en fait, cet étendard-là, il vous pousse à vous accuser les uns les autres. Et du coup, c'est un peu intéressant d'avoir l'air des fois un peu effrayant en montrant en fait le jeton pour que vous puissiez faire « Non, c'est lui !» Parce que sinon, en fait, vous êtes vachement gentils les uns avec les autres et vous n'êtes pas forcément en train de vous accuser.
C'est vrai que sur d'autres parties où j'ai vécu ça, très rapidement, il y en a un qui fait une bêtise et toute la table se met un peu contre lui pour essayer de s'en sortir. Et pour essayer de l'accuser lui, et ce sera le perdant de fin de partie. Mais bon, le maître du jeu peut réguler ça.
Et il distribue la parole aussi pour ça.
Alors que là, je trouvais que c'était un peu l'inverse. Au contraire, quand on avait des cartes pour intervenir pendant le discours de jeu, c'était souvent pour lui tendre une perche, ouais. Le frapper dessus avec un bâton. C'est arrivé plusieurs fois autour de la table. Enfin, c'est vrai que ça m'a un peu étonné aussi. Alors, j'ai même été le premier à le faire. Mais je pensais vraiment qu'on a tendance à se foutre la tête sous l'eau régulièrement. Alors qu'au contraire, on s'est tendu la main plusieurs fois.
Après, il y a les cartes qui marchent bien. Si quelqu'un a une carte trésor et que nous, on a une carte clé, on dit « Ah bah, c'est cool, ça rend le récit un peu crédible. » Et oui, t'avais oublié la clé ou voilà. Il y a des cartes qui se jouent vraiment entre elles.
Géraldine, t'en as pensé quoi du jeu? Comment tu t'es positionnée dans ce jeu-là? Comment t'as joué?
Très bien.
T'as trouvé ça cool?
Ouais, vraiment. Ouais. Et j'ai trouvé ça cool parce qu'en fait, même quand on jouait pas, on jouait. Même quand c'était pas notre tour de parole, on appréciait en fait écouter les autres, ce qu'ils allaient dire. Et c'était important parce que justement, comme on savait qu'à un moment ça allait nous revenir dessus, et ben en fait c'était aussi important d'écouter les autres. Ouais. Et j'ai trouvé que du coup il y avait pas de moment où on s'embêtait parce que c'était pas à nous de jouer, ou alors des moments où on regardait nos cartes en disant comment je vais les jouer et tout. Ouais. En fait non, ça venait assez comme on a que 3 cartes, ça venait assez facilement et c'était intéressant justement d'écouter en se disant bah on sait que nos 3 cartes comment on va pouvoir les jouer ou pas. Et
on a une écoute très active
et ouais et très active, et du coup c'est
contrairement à d'autres jeux de cette nature là
c'est ça exactement où du coup on peut s'ennuyer assez vite parce que soit on a nos cartes, on sait pas comment les jouer, alors on réfléchit comment les jouer, on attend notre tour impatiemment et tout, alors que là pas du tout.
Dans Il était une fois par exemple, pour aller dans ton sens, Géraldine, t'as ce dispositif de, donc tu racontes une histoire, tant que t'as des cartes à poser en lien avec cette histoire, tu les poses, et en fait à tout moment un joueur ou une joueuse peut interrompre s'il a une carte que tu mobilises dans la fiction. Par exemple, Alex a la carte échelle. Dans la fiction, je raconte que je me suis saisi d'une échelle pour monter au pommier. À ce moment-là, Alex peut jouer la carte échelle. T'as cité une échelle, c'est à moi de parler. Donc, je prends la narration et c'est à Alex de parler jusqu'à ce que quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans Il était une fois, t'as vraiment cette sensation de couloir où t'écoutes l'autre, mais pas de façon active, en regardant tes cartes juste pour attendre le moment où il va faire un faux pas et les jouer. Là, c'est vraiment pas le cas. Il y a vraiment quelque chose d'actif. Et à mon avis, ce qui crée ça, c'est les cartes main levée, main indiquée, qui permettent de... Non, les papiers sont derrière toi, Flavie. Si tu veux un papier, un crayon. Flavie, vas-y.
Plusieurs choses, donc je pense que ça va être un petit couloir. Désolée. Moi, quand on m'a annoncé ce jeu, j'avais très peur de faire qu'on se soit un baron de Münchhausen. Où en gros, c'est chacun parle et raconte sa petite histoire les uns après les autres. Et moi, la dernière fois que j'ai joué, en fait, j'étais la dernière à parler ou l'avant-dernière. En fait, quasiment tout le monde avait déjà quitté la table.
Baron Munchausen.
Ouais. Et du coup, j'avais vraiment. Je me disais, oh là là, j'espère qu'on va pas trop se faire chier. Par contre, ce jeu désamorce pour moi l'un des plus gros problèmes du Baron Munchausen. C'est que justement l'écoute active est due, du coup, à quoi elle est due? Parce qu'on a un vrai jeu collaboratif de construction d'histoire.
Oui.
C'est-à-dire que là, on a des cartes en plus qui vont se répondre les unes aux autres, comme tu l'as bien dit, Alex. Donc on attend, moi il y a des cartes par exemple, je sais pas pour vous, mais que j'ai conservées à certains moments en me disant notamment la flotte volante. Je me suis dit, ça se trouve, ça va aller avec quelque chose, le navire volant, je sais plus le nom. Ouais. Et du coup, on se surprend à attendre vraiment de voir en fait ce que les autres vont dire pour pouvoir rebondir dessus. Et ça crée un autre chose, c'est que du coup, ça va créer beaucoup d'humour parce qu'on comprend que les autres attendent. Et il y a un côté, genre, je vais faire un truc vraiment alambiqué et ensuite je te pointe du doigt et vas-y, mange-toi ça. Ouais. Et il y a vraiment un jeu avec l'écoute de l'autre dans ce jeu qui me paraît vraiment très intéressante à mettre en place, qui est soutenu en plus par les cartes. Et c'est un dispositif que je trouve vraiment chouette parce qu'il désamorce ce que je déteste dans beaucoup de jeux où on raconte les histoires. Alors qu'en plus, on te demande de raconter un truc ex nihilo, etc. Mais en fait, avec les cartes, c'est assez facile d'en rajouter. En plus, la position de Mignon, elle est un peu archétypale, donc on peut vraiment surjouer en fait un archétype, ce qui fait que du coup, on va aller vers des choses... vraiment de l'esprit commun en fait, le socle commun culturel de tout le monde, et comme beaucoup d'entre nous on joue aux jeux de société, du coup on va aller taper là-dedans et du coup on crée de l'humour avec ça en fait. Et du coup, contrairement au bureau de Munchausen, au baron de Munchausen par exemple, moi je n'ai pas ri, mais c'est pas le seul jeu en fait auquel j'ai joué où c'est vraiment en fait dans ton coup t'attends ton moment de parole. Là t'attends pas, tu participes même quand les autres ils parlent et tu ris beaucoup en fait.
Ouais. Oui, puis en plus il y a des phases et des mécaniques d'approbation dans le jeu. Le fait que quand les autres parlent, on soit en train de leur sourire, de rire, parfois même de réagir alors qu'on n'aurait pas le droit en ajoutant un truc. Oui. Ah oui, ça c'est bien vrai. C'est des petits trucs comme ça, on rajoute des petits éléments qui font que du coup on est toujours actif, on est toujours en train de jouer. Vas-y, va,
et il y a un truc aussi, c'est pas marqué dans les règles. Dans les règles, il y a juste marqué, bon, le maître du jeu peut porter une cape noire, d'accord, ouais. Mais dans d'autres parties, et surtout à celle-là, vous n'avez pas hésité à jouer vraiment physiquement ou à prendre des voix, etc. À prendre,
moi, je me suis même levé
accents
de la table, oui, pour mimer des choses.
Et ça vient tout seul aussi, à un moment où on joue vraiment... voilà, un peu la voix de dessin animé, finalement, un peu « Oh, pardon,
alors,
j'ai raté ».
Ça, c'est et parce que pour...
Selon les joueurs, bien
alors,
sûr.
Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un phénomène de convergence dans ce jeu. Alors, la convergence, c'est quand les joueurs font des choses que leurs personnages font effectivement dans la fiction. Des phénomènes de convergence, c'est par exemple, vous jouez à l'appel de Cthulhu, jeu d'enquête, on vous donne un faux journal à lire... Le joueur lit le journal et en fait, c'est une aide de jeu pour l'enquête, etc. On a vécu ça dans Réseau Terroriste. Je vous avais donné des vrais trucs, des vrais papiers à consulter. Concrètement, les personnages des terroristes, ils font effectivement de la recherche internet, ils font effectivement de la consultation de documents. Et vous, en tant que joueur, faites la même chose. On appelle ça jouer en convergence. Ici, il y a de la convergence parce qu'on est tous assis autour de la table. Le contexte de la partie, c'est le seigneur des sept ténèbres vous a tous convoqué à sa table pour expliquer pourquoi ça a foiré. Donc on est effectivement autour de la table en train d'expliquer à celui ou à celle qui est en bout de table pourquoi ça a foiré. Donc on est en situation de convergence. On est vraiment on incarne vraiment nos personnages. Géraldine.
Mais ce que j'ai trouvé très facile et intéressant aussi, en fait, quand le jeu, quand on l'a présenté, j'ai rien compris, j'avoue que...
Oui.
Et je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué, il va falloir inventer des histoires comme ça. Je me suis dit, est-ce que ça va venir voilà. Donc ça me faisait très peur. Et en fait, non, c'est hyper facile. On sent que c'est très accessible.
Ouais.
Et ça vient tout seul. Et justement, on écoute, comme il y a cette écoute active, etc.
Ouais.
Ça, on arrive à avoir des choses qui viennent assez facilement. Ouais. Et si ça part trop en cacahuète, le Seigneur des Ténèbres est là pour nous blâmer et pour nous remettre un peu sur le droit chemin en disant, non, mais là, c'est n'importe quoi.
Ouais.
On vous remet un peu...
Alors, je me permets de donner la parole à Julia, parce que Julia, qui est autour de cette table, c'est la fameuse Julia dont on parle systématiquement quand on évoque le problème de Julia. Et là, ici, ce que tu es en train de dire, Géraldine, c'est que tu craignais d'avoir le problème de Julia et tu ne l'as pas eu, en fait. Et donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi ce jeu, il ne provoque pas... Alors que pourtant, il y a vraiment des gens qui nous pointent du doigt. On est attendu sur une histoire. On a le Seigneur des Ténèbres autour de la table qui nous a... Pourquoi est-ce que là, on n'a pas le problème de Julia ?
Eh ben...
Julia !
Parce que déjà, toutes les Julias n'ont pas forcément des problèmes. Non, je pense que... Enfin, moi, il y a un truc qui me parle vraiment, qui fait lien, je trouve, avec ce jeu. C'est sur... Je fais juste un petit virgule parce que je vide ma pensée et après, je te réponds.
Je t'en prie.
Ça me fait penser à de l'improvisation au théâtre. Vraiment, il y a un truc de on se renvoie la balle et en fait plus on en fait, plus on en joue, plus ça amuse les autres et il y a en fait à part l'objectif d'avoir du fun et de faire rire les copains, il y a pas d'objectif. Il y a pas de gagner, il y a pas de perdre, il y a pas, enfin peut-être un peu perdre, on n'a pas trop envie, mais en fait
c'est très juste. Ouais.
Même dans la défaite, en fait, il y a zéro pression dans le jeu, c'est juste être rigoler et s'amuser quoi. Du coup, je pense qu'il y a un petit lien avec ce fameux blocage où on se dit ah mince, est-ce que je vais être à la hauteur de ce qu'ils attendent là, ma réponse.
Si on t'avait dit ce soir on va jouer à un grand jeu, tu vois, c'est un jeu, il a été écrit par quelqu'un, tu vois, tu vas voir, tu vas découvrir quelque chose d'incroyable, machin, et que là, vas-y, parle.
Mais là, ça désamorce tout. Bah, de fait, on est tous des gros losers.
Ah,
on est tous des gros losers.
Très intéressant ça. Alex Piflavi.
Les parties que j'ai jouées où ça s'est pas très bien passé, c'était avec des gens qui avaient pas forcément compris, qui eux jouaient un jeu et ils ont pas trop compris le principe de il y a un perdant et même le principe de respect un peu de roleplay du maître du jeu. Je me rappelle de parties où je disais mais arrêtez de faire ça et le joueur sortait et disait mais je fais ce que je veux ou voilà et il voulait pas en fait se faire mal parler ou il voulait avoir raison ou il voulait
il
pas
n'acceptait pas cette position, voilà, d'être dominé.
Ou quand je
fait.
Mettais un blâme, il disait ah ben j'en ai rien à foutre, mets-moi un deuxième, voilà. Et en fait bon bah ok, bah ouais. Je t'en mets trois, on a fait 10 minutes de partie, merci. Donc il faut pas avoir un peu d'ego, il faut bien comprendre comment se joue le jeu, il faut bien avoir en tête certaines références, certains trucs, ça fait un peu penser à, bien sûr, Donjon de Hellebuck, des choses comme ça.
Voilà, tout à l'heure, on a vu ça en tête.
Voilà. Il faut avoir ça. Si la personne, elle a vraiment pas, si elle comprend pas ce truc-là, il va pas s'amuser. Il va pas s'amuser, il va être difficile à gérer parce qu'on va le laisser dans un coin.
Flavie, puis François.
Moi j'avais noté des petites choses justement sur ce que tu disais Julia. Déjà autour de la table tous les joueurs sauf le maître de jeu, mais les joueurs ont tous le même niveau hiérarchique et le même niveau hiérarchique de grosse merde, donc c'est trop cool parce qu'en fait ça te donne le droit de cabotiner parce que t'es une grosse merde et en plus t'es pas un héros, donc comme t'es pas un héros bah tu t'en fous, en fait t'es pas un héros. Donc tu vas pouvoir raconter n'importe quoi et plus ce sera nul, mieux ce sera. Et si t'essayes de faire un truc cool, eh ben de toute façon avec les cartes que tu vas tirer, ce sera nul. Et en plus c'est nul, plus les autres rient. Enfin, et du coup une fois que t'as compris ça, je pense que tu peux aller dans en gros ce que tu racontais sur le freeform. En fait, on est vraiment sur un mode, on va y aller, on va vraiment aller sur un espace de parole où on va faire comme si on était dans du freeform. Et du coup le fait qu'on ait un système un peu comme dans Arthur dans Camelot, c'est-à-dire il y a Arthur au bout de la table qui a plus ou moins
alors
atterri
ça,
de
ça a été cité hein, aussi hein, comme référence.
Ouais. Et du coup, en fait, je trouve qu'il y a Camelot. Il y a même une prime au perdant. Moi, j'étais trop contente d'être la perdante, en fait, dans le premier. J'étais « Ah oui, c'est moi, là, c'est moi qui fais foirer !»
C'est vrai. Ah, c'est génial. Finalement, le perdant, c'est celui qui
le
gagne.
Le perdant, c'est le plus merdique. J'étais tellement contente avec mon Igor, quoi. Genre, Igor, il est vraiment nul.
Alors moi, j'avais trouvé déjà ce truc de « il y a un seul perdant » assez extraordinaire. Parce que ça veut dire que, j'ai du mal à l'exprimer, mais en gros, on se réjouit tous de la défaite de l'un d'entre nous. On est tous sauvés.
C'est comme des vraies petites merdes de mignons, en fait.
Exactement, c'est ça, quoi. Comme à l'UMP, quoi. Tu vois, il y a un côté comme ça.
Oh, c'est gratuit.
Ouais, grave, trop bien. Trop bien. Et ça nous ramène encore plus en convergence, du coup, parce qu'on ressent le même sentiment que des petites merdes.
C'est ça. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, Arthur, hein, on l'a cité là, mais Camelot aussi a été cité. J'ai aussi pensé au jeu de Peter Molyneux, là, Dungeon Master, où tu joues à un maître du donjon qui est vraiment dans cette ambiance-là, qui lui-même, d'ailleurs, je pense, s'inspire la scène du donjon de Nealbuck. Pour moi, hein, mais je peux me tromper, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration de ce jeu-là.
Ouais, ça me fait. Enfin, le seul jeu de rôle où j'ai ressenti la même ambiance et le même truc, c'est Fiasco. Parce que on joue tous des nuls, on sait qu'on va perdre, mourir ou se faire arrêter, ou enfin selon le thème du jeu, et on se lance la balle et on crée les éléments pour que l'autre s'en saisisse, on s'écoute, on s'amuse et une fois sur une ça part en grand délire. Fiasco, ça me fait beaucoup penser à ça.
Julia, moi ça fait penser à My Life with My Master aussi, qui est beaucoup plus sérieux, mais vas-y Julia, je t'en prie.
Je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, genre mais pourquoi ce jeu te fait pas bloquer et tout. Aussi bah les cartes aident énormément, en fait t'as vraiment un support visuel, t'as pas à te tordre la tête ou être débordant d'imagination pour alimenter l'histoire, t'as vraiment un support de cartes.
Tu peux jouer des cartes.
Peux jouer des cartes et t'inspirer des cartes, ouais. Et du coup bah
t'as pas besoin forcément de savoir raconter une histoire incroyable.
Oui, c'est ça.
Abattre une carte, c'est parfois suffisant.
Complètement. Ouais.
Ouais. François ?
Les cartes sont très simples, donc elles parlent à tout le monde. Tu vois, je prends la carte de la carte. Globalement, il y a une carte dessus. Mmh. Et je pense que peu importe l'univers d'où tu viens, c'était plus heroic fantasy, science-fiction ou juste si t'es routier, tu peux déblayer sur ça, en fait, simplement. Et je trouve que pour ça, le jeu est très très bien. Sur le fait aussi où on n'a pas peur de raconter des bêtises, c'est qu'on est dans une impro totale, comme disait Julia, et du coup, on ne se dit jamais non. On va jamais refuser ce que l'autre va nous dire, on va partir dessus, on embraye, ouais. Et au pire on se met les pieds dans le tapis, on prend un blâme par le patron et on rigole un bon coup.
On va ne jamais se dire non. C'est
je trouve
ça.
Qu'effectivement en fait j'ai pas fait gaffe, enfin je crois pas qu'on se soit dit non une seule fois sur les deux parties. Je trouve que c'est vraiment important et ça permet à la narration de partir, et comme il n'y a pas de pression sur le fait de gagner ou de perdre, on va privilégier la narration au fait de gagner ou de sortir la bonne carte au bon moment. Et moi juste quelque chose qui m'a quand même beaucoup fait marrer sur la deuxième partie, parce que j'ai perdu le fil au bout de 5 minutes tellement c'est parti dans tous les sens. Et en fait, ça m'a juste rappelé, moi, les souvenirs où t'es un mauvais élève au collège et tu comprends rien à ce qui se passe en cours. Tu te marres avec ton pote et là, il y a le maître du jeu, aka le prof de maths, qui fait « Bon, François, on parlait de quoi ?» Et là, tu fais « les métaphores en maths, ouais, évidemment, monsieur Berthier. » Et ça, sur cette partie-là, ça m'y a fait affreusement penser. Et je trouve le souvenir régressif est vraiment super cool.
T'as vraiment eu un prof de maths qui s'appelait monsieur Berthier?
Non. Je ne citerai pas leur nom. Certains étaient cool. Allez. Mais c'est vrai que cette sensation d'être pris entre en défaut, je t'écoutais. Oui, bien sûr, je t'écoutais absolument.
C'est vrai qu'il y a une sensation. Il y a vraiment une sensation maître d'école et enfant chahuteur. Je suis d'accord avec
et
toi.
C'est vrai qu'il n'y a jamais de nom. Et dans le jeu, de toute façon, il y a deux règles qui sont là-dessus. C'est qu'une carte posée avec un élément dit est vrai, déjà.
Oui.
C'est arrivé.
C'est un point
ça,
dur.
Ça se passe. Tout de suite, c'est réel. La personne. Alors, si je dis ah, t'as fait tomber la clé, l'autre peut dire non, j'ai pas fait tomber la clé, mais c'est juste son personnage qui veut pas dire qu'il a fait tomber la clé. Mais
la clé est tombée.
La clé est tombée. Et la deuxième chose, dans les règles, c'est assez bien fait aussi pour éviter des fois des petits problèmes d'ego ou de joueurs qui ne jouent que à deux. C'est on peut pas se renvoyer la balle plus de deux fois. Donc si moi je te dis Rome c'est ta faute avec tel élément et toi tu dis non c'est la tienne avec tel élément,
ouais, ça
moi je peux pas dire ah ben non mais ça, parce que ça fait chier tout le monde et etc. Ouais. Et ça c'est une deuxième règle qui est assez bien, bon, qu'on n'a pas joué parce que nous on sait se répartir le temps de parole automatiquement.
Mais la distribution de la parole est assez magique dans ce jeu pour tout un tas de raisons que Flavie a déjà commencé à signaler, mais je te voyais réagir Claire sur le maître d'école. Qu'est-ce que t'as pensé de ce jeu toi? Parce que du coup t'as pas accès au micro, je suis désolé, je passe un peu de la parole de but en blanc, mais comme t'as un peu loin des micros.
Eh ben plusieurs choses. Mais oui, alors ça m'a terriblement rappelé le travail, c'est terrible.
Ouais. Ah, c'est intéressant.
Non, c'est bien parce que pour une fois, j'étais du côté du chahuteur.
Des mauvais élèves.
C'est ça, des mauvais élèves, et pas de celui qui reprend. Mais il y a plusieurs choses que j'ai appréciées, notamment ce contrat de lecture qui est donné même avant d'ouvrir la boîte, c'est-à-dire on fonctionne sur de la parodie. Donc l'esthétique qui est donnée, les informations transmises, on te dit déjà ne prends pas ce jeu au sérieux.
Ouais.
Et effectivement, le seul canvas, c'est le théâtre d'improvisation. Et je pense que ça, c'est vraiment le socle du jeu où justement, on te donne quelques impératifs et c'est à toi de broder autour et de broder ici en solidarité. Et c'est ça que j'ai trouvé amusant, c'est-à-dire que le fait qu'on ait tellement apprécié la narration a donné cette solidarité entre nous parce que quelque part, on ne voulait pas que le récit s'arrête. Et donc finalement, ce sont tous les mignons qui se soutiennent parce qu'on se dit bah non, si le maître du jeu il met le troisième blâme, bah l'histoire elle s'arrête quoi.
Ah,
mais ça c'est vraiment la première partie. J'avais vraiment envie de voir où ça allait et c'est pour ça qu'on a épuisé toutes les cartes et j'aurais pu être plus de blâme ou être un peu plus cassant. Mais j'avais vraiment envie de voir où vous alliez aller.
Excellent ça. Flavie, tu as pris plein de notes.
C'est moi, désolée. Ouais.
Moi aussi. Hein.
Moi, j'aimerais parler de la posture de maître de jeu, qui sur le papier, en fait, est très descendante. C'est une posture vraiment, comme vous disiez, de maître d'école qui va distribuer les bons points face aux élèves turbulents, qu'elle a pour les calmer, qu'elle a pour réclamer la suite de l'histoire. On a vraiment l'impression d'être chez le Dirlo, quoi.
Ouais.
Et moi, j'avais très peur quand j'ai vu que j'allais le jouer. Et en fait... c'est le même système que pour les mignons où vous allez jouer des merdes et donc tout va bien. Là, en fait, c'est pas un méchant classe. C'est un méchant archétypal qui a engagé que des merdes. En fait, c'est un méchant qui comprend rien quand on lui parle.
Oui, c'est un méchant qui est pas méchant, en fait.
En fait, c'est un méchant. C'est-à-dire que si vous voulez, en vrai, le vrai méchant, en fait, vous m'avez pas ramené l'épée Excalibur, je vous tue tous et je renvoie une autre équipe. Là, en fait, c'est un faux méchant. Il dit, bon, bah alors, pourquoi vous avez raté mon épée? Et puis, en fait, quand il y en a un qui va être perdant, il fait, bon, bah je te mets dans le donjon. Super. Enfin, je veux dire, c'est pas un vrai méchant, en fait. Et donc, du coup, c'est vraiment un méchant archétypal. Et du coup, comme il est archétypal, il va aussi amener pas mal de cabotinage. Et du coup, en fait, là où tu te dis flûte, ça va être compliqué, les autres, ils vont pas aimer quand je vais leur couper la parole ou les engueuler en mode tiens, prends ton jeton, franchement, ça va pas du tout. Et en fait, quand tu te donnes le jeton, tout le monde est mort de rire à la table, en fait.
Oui.
Il y a juste, à un moment, on a joué avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, en fait, et qui avait du mal avec cette posture-là. Parce que lui, en fait, il était plus jeune et je lui ai expliqué pendant le jeu, en fait. Mais non, mais en fait, c'est pour rire. C'est, en fait, je suis un méchant nul. Tout va bien. Enfin, et après, ça allait beaucoup mieux. Mais du coup, en fait, le moment où, du coup, parce que lui, il avait déjà pas mal parlé, j'avais repéré qu'il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas du tout parlé. Donc... Et à ce moment-là, il dit oui, c'est à cause de lui. Je dis bon, bah, je me tourne vers la personne qui pointe. Bon, alors ça suffit, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, il m'a dit oui, mais j'avais pas fini. Je dis bah oui, mais t'as pointé, je suis le maître de jeu, j'ai le droit de me tourner vers l'autre. Et c'est là que je lui ai expliqué que du coup, j'étais. Un méchant nul en fait.
Oui, puis faut, dans, c'est un jeu dans lequel il faut accepter que c'est pas toute son histoire qui sera
exactement.
Retenue.
Exactement.
On va
et
la
lui,
partager.
Et lui, il était
en fait.
Hyper content parce qu'il avait trois cartes qui allaient bien ensemble ouais. Et qui expliquaient pourquoi on n'avait pas Excalibur. Ouais. Et je lui ai dit, mais tu sais, même si t'avais tes trois cartes, les autres ils en avaient encore plein. Ouais. Donc t'aurais expliqué la vraie raison et en fait tu serais resté sur ce truc-là, mais les autres ils auraient continué à jouer en fait. Mmh. Et donc du coup ça aurait pas été ça qui serait arrivé. C'est après qu'il s'est mis ah ouais c'est vrai d'accord parce qu'il a mis du temps en fait lui à rentrer dans le jeu aussi parce qu'il est plus jeune et que du coup je pense qu'il se disait qu'il avait un truc un peu à se prouver. Et lui par contre du coup il était pas au même niveau hiérarchique des joueurs. Donc je pense que une prochaine fois si je dois faire ce jeu avec des gens plus jeunes, en fait c'est à bien préciser qu'on est sur le même niveau
si
de.
Si on
double,
mélange
en fait.
Adulte enfant ouais. il faut être prudent.
Ouais parce que du coup lui il était on a fait un podcast hein, sur jouer avec des enfants et lui il était vraiment dans la création de l'histoire et lui l'histoire il l'a prise très au sérieux et comme il a une mémoire de ouf, lui il avait vraiment compris et retenu tous les espaces que vous avez déterminés, c'est-à-dire que lui il voyait très bien qu'on était monté en hauteur qui avait eu un son, qui avait eu un donjon et tout, parce qu'à un moment je sais plus, je demande à qui, mais du coup là vous étiez dans un donjon mais vous étiez en hauteur et il y a une rivière et un pont, et lui il m'a ressorti toute l'histoire, j'étais là ah ouais t'as tout retenu. Moi pas du tout. Et du coup c'est pour ça, l'enfant il a tendance à rester énormément dans la fiction, donc je pense qu'une prochaine fois si je dois jouer avec des enfants, il y a vraiment 2-3 trucs en plus dans le contrat social à établir pour qu'il soit vraiment au même niveau hiérarchique. Mais c'est pas de notre faute, on n'avait jamais testé le jeu, mais en effet du coup lui il n'était pas au même niveau hiérarchique vu qu'il n'était pas adulte, donc lui il n'était pas prêt à jouer une daube.
Mais
il
y a des
avait envie de montrer qu'il savait jouer.
Et pour aller dans ton sens, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles ça marche pas. Par exemple, tu fais jouer ça vraiment en classe et le prof fait le Seigneur des Ténèbres, ça marchera pas. C'est... parce que justement la convergence sera pas là. François, tu voulais ajouter quelque chose? Claire peut-être?
Ouais,
aussi,
parce qu'on regarde avec Alex le de la boîte et en fait le jeu est pour 8 ans et plus, ça me paraît un poil jeune quand même pour ce jeu là.
Alors ça dépend, si
le
Seigneur des Ténèbres
est compliqué, mais c'est...
Alors
ça
si, parce qu'en fait moi ça fait partie des autres trucs dont je voulais parler, c'est parce que nous on brode beaucoup sur les cartes parce qu'on est adulte. Mais en vrai, en fait, tu peux te contenter uniquement de lire ce qu'il y a sur la carte.
C'est
mais non,
c'est
mais voilà, il y a juste, c'est parce qu'il y a l'elfe, je sais plus quoi, l'elfe méfiante qui est arrivée et tu peux lire ce qu'il y a en dessous et c'est tout.
Ouais.
Donc en fait,
oui,
il suffit
vrai,
d'y avoir
vrai.
Un bon niveau de lecture, en fait.
C'est vrai.
Enfin, un assez bon
oui,
niveau de lecture.
Je vois avec la vision moi, que j'ai du jeu qu'on
en
a fait.
En fait, c'est ça. C'est que nous, on avait un niveau d'exigence.
Niveaux, oui.
Okay, on est tous au même niveau d'exigence et au même niveau d'attente. Ce qui aide, en fait, on harmonise déjà nos canons esthétiques. On a les mêmes références. Tu voulais ajouter quelque chose, Claire?
Moi, c'était pour rebondir sur cette idée que tu as donnée du maître du jeu qui peut être un peu ridicule et voire malmené par ses mignons.
Ouais.
Je pense que parfois, on est même tenté d'être un peu provocateur pour voir si on va être puni. Et je pense
Romaric.
Exactement, j'allais en parler.
Je pense à Caroline, notamment, qui regarde droit dans les yeux le maître du jeu et qui lui dit « Bah non, je bossais pas. J'étais au soleil, je pêchais.
» Je cite, je pêchais pépouze.
Caro, comment tu t'es sentie dans ce jeu-là? Parce que c'est aussi un de tes premiers jeux de rôle.
Oui, alors très différent des autres que j'ai testé chez toi.
Pourquoi?
Et déjà, vraiment, comme tu disais tout à l'heure, Géraldine, même quand tu ne parles pas, tu rigoles, en fait, juste d'écouter les autres. Pour être honnête, je suis éclatée ce soir. Plein de moments, mon cerveau il est parti, et pour autant, j'ai quand même vachement ri, en fait. Même si j'étais pas inspirée plus que ça parfois par les cartes, je me suis trop marrée. Et quand mon cerveau revenait en tout cas. Et oui, c'est vrai que non. Alors j'ai pensé justement à mon fils pendant le jeu. Alors il a que 4 ans pour l'instant, donc tranquille. Mais ce truc justement de stimuler la créativité, écouter, obligé d'écouter, la patience, attendre et accepter justement qu'on dise oui ou non, vas-y tu peux parler ou pas. Et ouais, vraiment, ce genre de jeu, je pense que pour le petit, quand il grandit, ça peut être hyper intéressant. Après, avec le contrat social dont tu as parlé tout à l'heure. Je n'ai pas pensé à ça, mais ouais. Non, moi, je me suis bien marrée.
C'est du... En fait, moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que c'est du jeu de rôle, en fait. À l'état pur. il y a pas, c'est pas en fait parce que quand tu me l'amènes, Alex, tu me dis c'est un petit jeu de société, c'est un jeu apéro. Non, en fait,
oui, c'est un vrai jeu de rôle. C'est un petit jeu.
Le jeu, tu mets Ron Edwards dessus, créé par The Forge. En fait, c'est un jeu indé. Tu vois ce que j'ai, c'est un jeu de rôle, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que le jeu aujourd'hui, il est, à mon avis, il est sous-estimé parce qu'il est positionné sur un créneau où on n'attend pas du jeu de rôle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire,
Fanny? Ouais, j'allais dire, tu rajoutes dans la boîte une pseudo-fiche de mignon.
Ouais, voilà.
Où tu mets en fait quelle est ta race de mignon, ton espèce de mignon, quelle est ta plus grosse bêtise, quel est ton nom, et je sais pas, un truc à la noix en plus, quoi.
Une feuille de perso, juste.
Une feuille de perso, et en fait, ça roule. Et une feuille
des faits, des traits.
Et un petit truc de feuille pour le maître de jeu, et puis on est bon.
C'est très marrant que tu dises ça parce que, avec un groupe d'amis auquel on a quand même bien joué à ça, très rapidement, y a des personnages qui sont créés, et on avait un barbare, on avait une sorcière, avait machin, et tiens, on a qu'à changer de nom, comment tu t'appelles, Gromtar, et toi tu t'appelles Elindra. Et donc,
on l'a fait un peu là.
Ah oui, c'est ça.
Il y a eu des noms. Hein.
Mais je me rappelle même avoir fait des parties où c'était obligatoire. Bon, vous allez choisir à quoi vous ressemblez, qui vous êtes, etc. Et on peut amener des débuts de jeu de rôle.
C'est vrai, mais en faisant ça, tu hausses le niveau d'exigence.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Julia dit ouais en dehors des micros. Ça m'amuse. Voilà, c'est tout. C'est intéressant. En fait, moi, je trouve ça fascinant de se dire que là, on a typiquement. Tu vois, comment dire ? Dans le jeu de rôle, en ce moment, on essaye de faire en sorte que le jeu de rôle devienne un jeu de société pour essayer de le rendre le plus accessible possible. Là, on a un jeu sorti en 2007 qui fait déjà ce qu'on voulait faire. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est déjà fait. Ça a déjà été fait. Et là, on en a un exemple. Juste, il n'y a pas écrit jeu de rôle dedans, à mon avis. Hein. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je pense que c'est écrit à aucun moment dans la base. Pourtant, c'en est. C'en est. Et c'en est pourquoi ? Parce qu'il y a le maelstrom à fond. Tout ce que vous avez dit précédemment, c'est on fait des propositions sur la base de cartes. Les cartes sont des propositions. C'est-à-dire que vraiment, et certaines d'entre elles sont validées objectivement parce que ce sont des cartes et que le jeu, le contrat social nous dit les cartes sont des propositions validées. Par ailleurs, on a cette contrainte de le contenu fictionnel, il va être partagé, dur, parce qu'on doit rebondir dessus. Donc il y a un contenu fictionnel qui est construit, il est malléable. Parce qu'en fait, n'importe quelle proposition peut renégocier le contenu. Non mais attends, on n'était pas... Tu disais qu'on était sur le dragon, mais... Non, il avait mangé un golem de pierre d'abord. Ah oui, c'est vrai. Donc on renégocie constamment le contenu fictionnel, donc il est bien malléable. Donc on est pour moi, dans pile poil dans la définition du jeu de rôle. Juste, il n'y a pas écrit jeu de rôle dessus. On est exactement comme dans le cas de Jury Box, jeu sorti dans les années 50, qui n'est pas du jeu de rôle parce que le mot jeu de rôle n'est pas inventé, mais en fait, dans les faits, ce qu'on fait autour de la table, c'est on fait des propositions en vue de créer un contenu fictionnel malléable. Mmh. Alex.
Pour rebondir là-dessus, je te lis la première ligne de la description du jeu, qui est « Oui, Seigneur des Ténèbres est un jeu de société qui se déroule dans un décor fantastique et sur un ton humoristique. » Pour jouer, il vous suffit de quelques compétences d'improvisation, de quelques amis, d'avoir envie de vous payer une bonne tranche de fou rire.
Voilà. C'est aucune mention du jeu.
C'est extrêmement simple, extrêmement clair, et ça donne vraiment dès le début. On s'en sent qu'on n'est pas non plus sur un jeu avec un objectif, un gagnant, des perdants. On n'est pas là-dessus.
Alors, le fait que chacun ait des cartes... Il y a un dernier élément de fiction que je voudrais révéler sur ce jeu qui me semble... vraiment, qui crée la magie du truc, en fait. C'est que quand on est en position, en situation, d'inventer une excuse parce qu'on a fait une connerie et qu'on n'a pas envie de la révéler, on est justement en train de faire du jeu de rôle. Parce qu'on est dans une situation où on est en train d'imaginer des situations possibles, les plus crédibles possibles, pour satisfaire son employeur ou la personne qui nous accuse. On est vraiment coupable. Une personne nous accuse. On doit inventer un scénario crédible. quand tu es pris par la justice, que tu n'avais pas mis ton clignotant, te dire oui, mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, mon clignotant, je l'ai mis, mais tu n'as pas vu parce qu'il y avait un reflet. Ou non, mais en fait, derrière moi, il y avait un cycliste, j'ai eu peur de le confondre en erreur, donc je n'ai pas mis mon clignotant.
Je n'ai pas fait mes devoirs parce qu'il y a un dinosaure qui est arrivé sur la route, et en ça. Fait, je l'avais donc, fait, mais il a pris ma feuille.
C'est une situation de faire du jeu de rôle. Ici, le fait d'avoir des cartes en plus nous contraint dans cette explication, la rend pas crédible. Et donc, nous met aussi dans une situation d'hésitation et des situations où on est le mauvais élève qui doit s'excuser. Je ne sais pas comment dire. Donc, il y a vraiment, en plus, hein, une dynamique de synesthésie, de convergence dans le fait d'être là en train d'inventer une histoire. Et c'est quoi donner une excuse bidon ? C'est inventer une histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, du coup, ça donne encore plus de réalité à la fiction qu'on est en train de se raconter. Donc, si on prend mi bout à bout tout ça, on a le fond, la forme. C'est-à-dire qu'on est autour de la table, effectivement, avec un maître de jeu qui est en bout de table, qui nous demande des explications. Et on est dans la fiction des mignons qui donnent des explications à maître de jeu. Le fait qu'on donne des explications qui sont inventées, donc qui nous donnent une posture de menteur. Bah oui, on ment puisqu'il n'y a pas de vérité. Donc ce qu'on raconte, les propositions qu'on fait, elles sont basées sur aucune réalité. Donc voilà, il y a ça. La prise de parole que tu as bien décrite, Flavie, le fait qu'on donne la parole, que les uns les autres se donnent la parole, qu'il y ait du rebond. Waouh, mais c'est une tuerie ce jeu en fait. C'est une tuerie. En vrai, c'est une tuerie. Tu vois, Flavie puis Alexandre.
Moi, j'ai même des idées de hack.
Mais oui.
Ouais. Quand il y a des idées de hack, c'est qu'il y a une mécanique qui peut être adaptée, tu vois, comme quand j'avais joué à Pour la Reine où j'avais des idées.
Non, mais Pour la Reine, c'est moins bien.
Ouais, c'était ma prochaine étape. Pour la Reine, c'est moins bien. Ça, j'ai trouvé ça mieux. Et genre, j'ai plein. Enfin, tu sais, un fan de littérature jeunesse, j'avais fait mes devoirs, mais comme la suite de littérature, de livres. Mais c'est carrément adaptable comme ça. En plus, faut contacter l'autrice. Faites quelque chose, quoi. Faites un jeu pour les gosses. J'avais ton alliance. Je devais venir te les apporter au mariage, mais. Enfin, il y a plein d'idées possibles, quoi.
Oui, parce qu'en fait, pour la Reine, par exemple, tu vois. Alors, Pour la Reine, c'est l'exemple typique du jeu de ces dernières années dans lequel on a voulu importer le jeu de rôle dans le jeu apéro.
Ouais,
vraiment,
et tu vois, ça fait quand je pensais, parce que moi je suis pas une grande fan de Pour la Reine, et en fait,
on attend son tour aussi.
Bah ouais, c'est à ça que je pensais, tu vois. J'ai cité le Baron Munchausen, il fait partie aussi des jeux pour lesquels moi j'attendais mon tour. Et une fois, on a joué à 14, et ben quand t'es dans les dernières à jouer, et ben t'attends l'autre tour.
Alors attention, hein, une fois de plus, le propos de Pour la Reine, ce n'est pas le même que Vigor Mortis. Voilà, le jeu permet, Pour la Reine permet sans doute de développer des histoires différentes. Je suis pas sûr.
Ah oui,
voilà.
Oui, on n'est pas sur le même attente. Ça développe pas le même type d'histoire.
Si
il y a des histoires un peu tragiques.
On précise, hein, si l'objectif c'est de faire descendre le jeu de rôle dans le jeu apéro, ce jeu le fait mieux pour moi que pour la Reine. C'est ça que je veux dire.
Il le fait mieux que. C'était quoi déjà le jeu apéro qu'on a testé?
Ah, l'apéro.
Il le fait vachement mieux qu'Apérole, quand même.
On vous invite à écouter le podcast. Hein, si vous, voilà. Alors, Apérole, c'est l'échec critique, là. Là, tu cites. Il faudrait presque inviter l'auteur d'Apérole et qu'on se mette tous autour et qu'on lui demande. Mais. Et qu'on soit tous les seigneurs des ténèbres et qu'on fasse un petit interrogatoire. Ça serait marrant.
C'est un hack super, ça. J'avais prévu un jeu apéro, mais.
Alex.
Oui, je sais, on a bien enchancé le jeu. Peut-être que vous avez aussi trouvé des défauts.
Ah.
Il y a quand même un petit défaut, c'est que 80 cartes, c'est pas beaucoup. Là, on a fait deux parties d'affilée. Est-ce que vous avez envie d'en faire une troisième? Pas forcément.
Ah oui, parce qu'on connaît déjà toutes les cartes.
On connaît les cartes. Je trouve qu'il y a des cartes qui. Enfin, il y a toujours des situations qui se remettent un petit peu en boucle, etc. Alors, est-ce que il faut acheter toutes les extensions pour avoir 1000 cartes et
l'éditeur a bien fait son petit paquet.
Je pense qu'il existe une extension, je suis quasiment sûr, mais on pourrait faire 50 extensions et on pourrait faire, pourquoi pas Seigneur des Ténèbres, mais est-ce qu'on pourrait le faire dans l'espace, par exemple? Est-ce qu'on pourrait le faire années 30? Je trouve que le côté heroic fantasy dans Journal Buck, on le saisit tout de suite. C'est un peu plus facile, c'est un peu plus cartoonesque, c'est un peu plus méchant de Disney.
Oui, le Dark Vador ridicule.
Non, ça ne peut coller que à de l'heroic fantasy.
Le fait d'être un jeu qui ne peut se jouer qu'une fois, pour moi, c'est pas forcément un défaut.
Il peut se rejouer, mais on y rejoue dans quelques mois, personnes. On peut créer nos cartes. Tu peux dire aussi, tiens, je crée des cartes ou je rajoute des choses dedans.
Parce que pour moi, c'est la définition même d'une expérience, tu vois. C'est la différence entre le jeu divertissement, l'expérience, le jeu en tant qu'expérience, tu vois, d'une dynamique sociale. Là, on a un jeu à expérience, en fait, tu vois. C'est pour ça que je le compare beaucoup au jeu indépendant de The Forge. Parce que je trouve qu'il a vraiment un petit côté forgien, en fait, ce jeu. Sans l'être, évidemment, hein, mais... Donc, François, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, après, c'est pas très précis dans ma tête, mais niveau rejouabilité, ça se joue plus d'une fois, hein, très clairement. Moi, tu me proposes d'y rejouer demain, sans problème. Après, le truc qui peut être intéressant, c'est pourquoi pas en faire un jeu à contrainte. C'est-à-dire que quand tu as certaines cartes, ou tu t'interdis de faire certaines associations d'idées que peut-être qu'on aurait trop faites, ou enfin, j'ai pas d'exemple très précis, mais tu vois, ça pourrait être un... Ça rendrait le jeu pas plus difficile, mais un peu différent, peut-être.
J'ai...
Et en même temps, je trouve que tu vois, là, on a fait deux parties et on n'a pas eu du tout le même scénario. Parce qu'en fait, le premier scénario, on a réussi à partir tout de suite avec ce chariot à roulettes crevé. Alors que le deuxième, les premières cartes sorties, en fait, on était presque dans une impasse. On a eu du mal à rebondir, à sortir quelque chose. Et donc, tu vois, alors malgré qu'on ait vu toutes les cartes sur le premier... Moi, je t'avoue qu'à la fin, j'étais contente que ça se termine parce que mes trois cartes, je ne savais pas quoi en faire et je me suis dit, si on me donne la parole, là, je ne sais pas quoi faire.
Flavie ?
Ouais, autant dans le premier scénar, en fait, en gros, les mignons, ils ont sans arrêt essayé d'aller vers une tour pour aller choper la princesse. Au final, ils n'y arrivent pas. Donc, à la fin, ils trouvent une meuf dans un donjon. Ils font « Tiens, Seigneur des Ténèbres, ça marche, hein ?» Non. Alors que dans le deuxième, en fait, à la fin, on ne sait toujours pas où est passé Excalibur, en fait. Si je réfléchis à ce que vous m'avez raconté, en gros, elle est chez mon pire ennemi maintenant. Et c'est la faute, même pas vraiment la faute d'Alex, mais c'est lui qui a tout pris, quoi. Enfin, et en fait, c'est un peu rigolo parce qu'à la fin, ce que tu racontes, moi j'ai senti qu'en fait on était dans une impasse, c'est pour ça que j'ai mis le troisième aussi, jetons.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas, tu disais vraiment ça justement tout à l'heure, on n'a pas envie que ça se finisse et bah, la première partie c'était plutôt bon, bah, on n'a plus de cartes donc on va essayer de tomber sur un coupable. La deuxième partie, on aurait pu continuer l'histoire mais quelqu'un s'est fait punir avant. Donc il peut avoir des fins de parties différentes.
Alors j'ai essayé quelque chose à un moment donné, comme je voyais que ça partait un peu dans le foutraque, on était quasiment dans le rêve à un moment donné, c'est-à-dire c'était des associations, parce qu'évidemment on joue des cartes, certaines voulaient jouer beaucoup de cartes, du coup à la fin ça devient, oui mais alors on a pris une échelle pour aller dans le dragon qui prenait le train pour aller dans la rivière, et là on sent une espèce d'association d'idées qui tourne au Alice au pays des merveilles, oui. Donc au rêve en fait. Alors, à un moment donné je me suis dit, il est où le lapin blanc, quand est-ce qu'on croise le lièvre de Mars, enfin voilà, et il y avait vraiment un côté comme ça. Et à un moment donné, j'ai voulu recadrer. C'est pour ça que je me suis levé et que j'ai dit « Non, en fait, les gars, Excalibur, elle est là. » Et en fait, je voulais qu'on reparte sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Comme pour... bon, allez, on oublie comment on est arrivé là, mais c'est ça qui compte. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché à ce moment-là. Flavie ?
Je pense à ça, de ce que tu racontes. En fait... La personne plus jeune en fait avec qui on a joué.
T'as dit Soren.
Ouais, ah oui, j'ai dit Soren tout à l'heure. Oh là là, bon bah Soren.
Quand on a joué avec Soren.
Il jouait systématiquement toute sa main. Ouais. Je pense que pour jouer avec des enfants, il faudrait mettre un maximum de deux cartes excuses.
C'est vrai qu'on n'a pas joué avec cette règle de distribution des cartes. On s'est donné la permission de piocher des cartes quand on voulait. Alex, je sais, c'est toi, t'avais dit qu'il y avait une règle un
oui,
peu tarabiscotée.
Oui, il y a une règle un peu. On ne peut reprendre une carte histoire que si on se fait accuser par quelqu'un. Donc on reste avec deux cartes que j'ai toujours pas compris d'ailleurs et que j'ai préféré ne pas jouer.
À mon avis, il y a deux raisons à ça. C'est une question d'attrition en fait des cartes de façon à les rendre impactantes lorsqu'elles sont jouées et aussi. Une intention des auteurs et autrices, je pense, de raccourcir les temps de la partie. C'est-à-dire de se dire, ok, oui, Seigneur des Ténèbres, ça peut être quelque chose de très rapide, ça peut se jouer en un quart d'heure, 20 minutes, on abat toutes les cartes, ouais, l'attrition des cartes est importante. Là, le fait de piocher des cartes, au final, j'ai trouvé que c'était un défaut de cette partie, j'en ai pas parlé parce que je sais que c'est pas le dispositif original, mais c'était un défaut de cette partie pour moi, parce qu'en fait, ça les rendait moins impactantes. Comme on en a beaucoup pléthore, quand on les montre, en fait, il y a moins cet impact de « Waouh, il a joué une carte, elle a joué une carte, ça va, ça c'est une proposition importante, il va falloir qu'on tourne autour. » Là, du coup, bah, c'est ça, à mon avis, qui fait que la deuxième partie vire au Alice au Pays des Merveilles.
Ouais.
C'est qu'il y a trop de cartes, trop de données, trop d'infos, et ça part en couille, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça. Ils ont voulu faire un système d'attrition des cartes qui donne l'intérêt quand quelqu'un n'a plus de cartes, qui donne l'intérêt aux autres de l'accuser pour encore avoir une dynamique de comment on donne la parole. Comment bah on donne la parole comme on se donne des cartes en fait. Si tu me donnes la parole, tu me donnes une carte à jouer. Tu vois, on est comme Trump et Zelensky dans le bureau. Vous n'avez plus de cartes à jouer, tu vois. Il y a un côté comme ça. C'est des cartes à jouer au sens de... C'est des arguments. N'oubliez pas que ces cartes s'appellent des excuses. Ce qui était aussi une carte au tarot, d'ailleurs. Qui a une référence indirecte à ça. Claire, tu voulais...
Quand on a expliqué cette règle, justement, de récupérer une carte par l'accusation, j'ai tout de suite pensé, moi, à Zombie Cinéma, où effectivement, pour pouvoir jouer, il faut passer par le conflit.
Exactement.
Et je me dis que oui, c'est une manière de soutenir le conflit dans le jeu. Ce que nous, on a moins fait.
Oui.
On passait la parole, en fait.
Oui, tout à fait. C'est ça. François.
Et c'est peut-être pour ça qu'on se soutenait plus aussi. Parce que du coup, tu peux, entre guillemets, gâcher une carte pour aider ton collègue en face, alors que le but du jeu, c'est plutôt de l'enfoncer normalement.
Exactement.
Et c'est pour ça qu'on a peut-être eu cette solidarité immédiate et implicite autour de la table.
Et peut-être aussi qu'on a eu plus d'interactions que dans une partie ordinaire du jeu. C'est-à-dire que, au sens où, tu sais, ce truc de on n'est pas dans un couloir, peut-être que l'attrition des cartes aurait tendance à rendre le jeu un peu plus corridor, je pense, et à avoir un peu moins de réactions. Mais si les joueurs, les joueuses sont disciplinés, c'est-à-dire tant qu'ils n'interrompent pas vraiment la personne, je pense que les rires, les « ah oui, tu dis ça, mais bon, plus tard, on en verra », tu vois. Je pense que tout ça, c'est accepté, en fait, tacitement. On a le droit, parce qu'on est une assemblée autour d'un grand méchant, on doit lui plaire.
Puis ça ne change pas le récit.
Non, ça ne change pas le récit, voilà, c'est ça. Tant qu'on... Donc, tu vois, pareil, là, c'est vachement Maelstrom aussi, ça. Le fait de donner des éléments... verbaux ou non-verbaux qui valident tacitement les propositions qui sont dites. Le fait de regarder quelqu'un en souriant, c'est une façon de valider une proposition, de la faire entrer dans le contenu fictionnel malléable.
Sur la première partie, on l'a fait assez vite, le petit Fayot.
Fayot, voilà.
Alors
tu vas
être... On a joué aucune carte, mais voilà, c'est vrai qu'on l'a carte, fait beaucoup sur la
voilà, on se donne le droit de le faire. Et je pense que c'est effectivement très important. Je suis impressionné. Parce que vraiment, moi, je l'attendais comme hein, Il était une fois. C'est vraiment l'époque là en plus. Il était une fois, Elixir, tu vois, des jeux de ce type-là. En tout cas, ça en a la forme.
Moi, j'ai vraiment passé un bon moment.
Et en fait, c'est un jeu excellent, quoi. C'est vraiment excellent. Donc, merci beaucoup, Alex, de nous avoir amené le jeu. Est-ce que, Caroline, je la vois fatiguée.
Elle est sombre.
Julia, si je lui passe la parole, elle ne va plus savoir quoi dire, parce qu'elle a le problème de Julia.
Tu peux lui dire, va te...
Mais moi, je suis très content, parce que quand j'ai dit à Julia, on va faire un podcast le jeudi en arrivant chez Rome,
oh,
on va jouer un jeu avant, et le jeu, ça va être « Oui, c'est dans les ténèbres ». T'as fait comme ça.
En fait,
parce que non. Je pense que t'en avais un mauvais souvenir et alors, je suis très content de te voir un peu réconcilié.
Je rebondis sur ce que tu dis. J'étais pas le oh non, à faire un podcast sur Romaric, c'est pas ça.
Non,
ma
c'est
réaction c'était
jeu,
pas sur ça.
Non, mais
je tiens à éclaircir sur ça.
Non, mais on se connaît là.
Non,
que
non,
dire.
Non, non,
non, t'inquiète.
C'était sur le jeu parce qu'on a déjà fait des parties il y a longtemps et en fait, moi, c'était un jeu auquel je freinais un peu des deux pieds à chaque fois que tu le sortais pour y jouer parce que je trouvais ça un peu... C'est peut-être un petit lien avec le petit blocage, le petit problème au départ. Parce que je me disais toujours que broder, raconter l'histoire, c'était quelque chose qui allait me coûter et que je voyais pas le fun que je pouvais y apporter. Du coup, de mémoire...
C'est arrangé, hein, parce que là, t'étais quand même vraiment fun.
Ah oui.
Mais parce qu'en fait, c'est parce que les autres fois où on y a joué, tu nous l'as pas présenté de cette manière aussi relâchée et, on va dire, humoristique. Enfin, je sais pas, c'était peut-être trop formel les fois où on y a joué,
peut-être,
où le cadre
ouais,
était peut-être trop lourd.
Ou peut-être. C'était il y a... Alors, ça faisait longtemps qu'on n'a pas joué. Hein. Ça fait,
et aussi, je pense... Vraiment que ça dépend des gens avec qui tu y joues autour de la table. Vraiment, si la sauce elle prend pas, t'auras beau essayer de faire le clown et tout, si tout le monde est hyper froid, fermé et droit, bah
c'est ce que je disais tout à l'heure sur des joueurs qui sont peut-être trop carrés.
Elle nous fait des compliments les gens. Oui, c'était super.
Oui, mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur certains joueurs qui peuvent pas jouer à ce jeu parce qu'ils comprennent pas, ils pourraient faire un jeu mais il y a pas de gagnant, ils ont un peu d'ego ou ils comprennent pas du tout le rôle du maître du jeu, un peu méchant mais il faut savoir être humble et faire oh pardon. Il y en a avec qui ça passe pas. Je vais pas les citer, mais je les connais.
Et c'est vrai qu'avec Claire, on a eu l'occasion de jouer. Je suis sûr que c'est cette version-là maintenant. Il y a au moins 10 ans maintenant. Et en fait, j'en avais pas beaucoup de souvenirs avant de faire une partie parce qu'on avait passé une soirée affreuse. En fait, c'était un groupe de gens qu'on connaissait pour le coup très bien. Et il y avait cette notion que tu disais, Alex, de se prendre au sérieux. Et bon, je pense que vous avez remarqué, je ne prends pas trop ce genre de jeu au sérieux. Enfin, moi, je suis là pour rigoler très clairement sur ce genre de jeu.
À la seconde, je pense, où on a commencé à déconner un peu avec le jeu.
Et c'est parti en vrille, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que moi, je me suis installé, on m'a dit, bah, t'es un gobelin, t'as fait des conneries, il faut t'excuser. J'ai fait, bah, chaud, je suis dans mon élément. Et avec Claire, on est parti en vrille. On était trois, je m'en souviens, à part il y avait Jérémy, on va partir en vrille super vite, alors que ça déconne. Et ça a vexé la moitié de la table, qui était là pour se prendre un peu au sérieux. J'étais, ouais, mais t'as vu la gueule de la boîte, c'est un gobelin.
Ah, ils ont, on a lu les règles, il y a marqué pour des gens qui veulent se payer une bonne tranche de rire. Il y a marqué noir sur blanc dans les règles.
Je pense qu'ils voulaient prendre le jeu un peu à la Seigneur des Anneaux, tu justifies devant Sauron, mais comme tu disais, Flavie, bah non, t'es juste mort, on passe à la suite, on prend les tocards suivants. Or non, c'est Overlord où tu fais « Oui, monseigneur, pardon !» Et c'est vrai que là, je te rejoins, Julia, la partie n'était pas la même que celle dont j'avais souvenir.
C'est intéressant, mais tu vois, là aussi, c'est une affaire de contrat social. Ouais. C'est que le contrat social qui avait été posé était beaucoup plus exigeant en termes d'ambiance, en termes de force des propositions. Enfin, en fait, en gros, on avait ajouté un élément de direction artistique sur le Maelstrom, c'est-à-dire on avait dit bah, les propositions qu'on va faire non seulement elles devront être en accord avec les cartes, tout ce qu'on a dit, mais en plus à la fin, quand on regardera le contenu fictionnel, on devra avoir l'impression que c'était vraiment Dark Vador contre les seigneurs de l'Empire ou le Sauron contre avec ses légions de Saruman, etc., etc. Et ça pose tout de suite une exigence supplémentaire, fait qu'on n'est pas des Tolkien à l'impro, tu vois.
Ça, puis le jeu le permet pas, les cartes peuvent sortir tellement de manière aléatoire.
C'est ça.
Et il y a un bon côté à ce jeu aussi qui est, ça peut être un jeu entre des jeux de rôle plus sérieux, il y a un côté un peu défouloir, parce que dans certains jeux de rôle, dans beaucoup de jeux de rôle, même quand on jouait à Sens avec
Antoine,
avec la Citadelle, qui était un jeu sérieux, on a toujours à un moment envie de faire une petite blague, envie de balancer une petite punchline, une petite ref.
Oui, et puis tu prends et
qui
tu
ne
prends...
va pas du tout, bien sûr, dans la couleur du jeu et pas à ce moment-là, mais on peut pas s'empêcher de la faire. Et ben, où on joue un jeu de rôle, le Heroic Fantasy, ah là là, on a envie d'être dans le cliché, mais bon, c'est pas ce qu'on nous demande à ce moment-là. Là, on peut, là, c'est trop bien, parce qu'on se lâche, on raconte des trucs. Nul, on prend des accents, on dit ah, il y avait des gobelins, des machins. C'est vraiment du donjon de Nullbuck et c'est exutoire, tu vois, par rapport à des jeux de rôle qui te demandent un peu du sérieux et si tu dévies, le maître du jeu peut te dire oh non, s'il te plaît, là on est sérieux, reprends-toi, tu vois.
Claire.
Ça fait du bien.
Et de toute façon, je pense que les cartes induisent d'avoir recours à un humour par l'absurde. C'est-à-dire quand on pioche les chaussures à la mode, l'épée soluble et...
L'épée intelligente.
Voilà, l'épée intelligente, bah non, on racontera pas quelque chose qui tient la route.
Non.
Donc c'est un jeu qui encourage la mauvaise foi, complètement.
Complètement. Et
oui, mais si, c'est un jeu parodique.
De la création d'excuses. Hein. C'est un jeu parodique. Par contre... Et ça, je trouve ça assez intéressant aussi, et ça la rapproche aussi de Dog Eat Burg, de Dog Eat Dog de Lee Van Ackburg, c'est que le jeu s'inspire de la mécanique du jeu de rôle. Tu vois, ça c'est rigolo, c'est-à-dire que le gars, il a dû faire du jeu de rôle dans sa jeunesse, il a dû trouver des MJ tyranniques ou des situations dans les jeux de rôle dans lesquelles il y a le TPK, les PJ font n'importe quoi et ils doivent se justifier face à un seigneur qui est interprété par un meneur de jeu, dirigiste, machin. En fait, et du coup, on se retrouve aussi dans une forme de caricature ou de... en tout cas, il y a une ref. C'est une ref au jeu de rôle classique, en fait. Un donjon et dragon, au maître du donjon...
Un joueur qui dit « bah moi, je suis là pour rigoler ». Moi, je suis pas là pour écrire des trucs sur écrire des chiffres. Moi, je suis là pour m'amuser, pour rigoler. Donc, je vais mettre la merde dans le jeu et ça va me faire rire. Et peut-être quelqu'un d'autre, mais des fois que lui, eh ben, il peut jouer à ça. Enfin, il peut jouer à ça avec ses copains.
Ouais, c'est marrant. Flavie, tu voulais ajouter?
Je voudrais juste faire un petit point sur l'humour en jeu de rôle. Rapide. C'est Vivi Féasson qui avait fait un article là-dessus.
Ouais.
Le fait que des fois dans les jeux très très sérieux, en fait, on finisse par faire des blagues, et en fait, c'est une sorte d'immersion en elle-même.
Ouais.
Parce que ça permet de rester, de lâcher de la pression tout en restant en fait en immersion. Et donc, en fait, l'humour dans les jeux sérieux n'est pas à bannir, bien au contraire, en fait, c'est juste qu'il faut, faut savoir comment le doser et il faut savoir aussi à quoi on joue, en fait. Si tu veux vraiment faire toute une soirée d'humour, en fait, oui, ça va être plus logique, adapté, plus adapté, mais faire une blague de temps en temps dans un jeu très sérieux, ça peut être intéressant pour lâcher. Par exemple, nous, on fait une... Elle est déjà morte de rire, c'est à quoi je
fais Géraldine.
On fait un jeu de rôle que ça, de Trip to Fly, je vous invite à écouter les podcasts, qui est quand même hyper sérieux, mais la moitié du temps, en fait, on c'est rigole. Tellement horrible ce qui se passe qu'en fait, ils sont morts de rire à la table.
Et pourtant,
fait.
On est dedans.
Ouais, l'immersion, ils sont à fond dedans. Moi, ouais, j'ai juste ça. À poser l'article ça et ils sont à donf.
L'article de Vivi, cet article, il raconte en fait que le fait de rire n'est pas l'anti-immersion. Je pense que c'est aussi une réponse à Sens Exalogie, parce que dans Sens, il y a ce truc de si vous riez, si vous faites une blague en dehors de la partie, même si vous allez aux toilettes pendant la partie, vous prenez des points d'immersion négatifs. Le jeu pose volontairement les potards à fond, et Vivi répondait en disant bah non, parce que rire, ça peut, même si ça n'a rien à voir avec la fiction, ça peut être une façon d'être en immersion positive en réalité.
Oui, puis à Sens, moi, le nombre de fois où j'ai ri et mais où tu récupères quand même les trucs d'immersion, tu fais celui-là, regarde-moi, voilà. Maître de jeu.
Comme quand tu fais une blague horrible et que tu me dis j'ai gagné ma minute d'enfer.
Ouais.
C'est le côté, voilà, j'ai pris
mais
mon
ça,
point d'immersion.
Tu vois,
mais...
Vigor Morty, je trouve ça cool. Honnêtement, moi, j'y rejouerais. Je pense même une des prochaines fois où on fait une grosse fête, je pense qu'il est sorti, je vais le choper en fait.
Mais moi, j'étais pas mal en immersion en fait. En vrai.
Ouais, à fond.
C'est ce que j'allais dire, c'est que.
Parce que la convergence, tout ça. Hein.
C'est quand même. Quand on joue un jeu de rôle sérieux, qu'on fait une blague de temps en temps, entre nous, on sort du jeu, ok. Mais là, tenir le rôle un petit peu d'un personnage, et quand c'est à nous de parler, on sent tous les yeux qui nous regardent et on doit faire rire, c'est quand même pas simple de faire rire les autres. Et de dire, tiens, je vais sortir ça, tiens, je vais. Tu vois, moi, je suis plus à l'aise en maître du jeu qu'en joueur. Hein. Au joueur, j'étais un peu, je sais pas trop, bon, ok, d'accord. Mais toi, t'as pris un accent, d'autres ont pris des accents, des situations, des trucs.
On a changé nos voix, en fait. On a joué comme des comédiens de doublage, en fait.
Oui, exactement. Très clair. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de faire rire les autres et de rebondir et d'être.
Mais tout le monde
ne
l'a pas fait.
Non, tout le monde ne l'a pas fait.
Tout le monde ne l'a pas fait. Il y a
une bonne partie. Une bonne partie.
Une bonne partie, mais tout le monde n'a pas été dans la comédie.
Non, parce que c'est pas forcé. Et tu peux t'amuser en regardant quelqu'un qui fait ça.
Soren et Claire, j'ai pas trouvé qu'ils étaient dans la comédie.
Alors que pourtant, tu vois, moi, Claire m'a beaucoup fait rire en tant que maîtresse de jeu.
Ça veut rien dire. Hein.
Parce que justement, elle avait un comique de répétition extrêmement froid, qui était très très drôle, en fait. Comique à froid, super. Non, moi, j'ai trouvé que justement, ce jeu, par les cartes, en fait, alors que faire rire, c'est compliqué. Déjà, tout le monde avait fait rire au moins une fois, y compris le plus jeune. Et pourquoi ? Parce que les cartes amènent à créer en fait du comique de répétition, de cabotinage, etc., qui va créer en fait une sorte de... On va se regarder, je vais pas retrouver le mot, une sorte d'alliance en fait autour de la table,
de complicité,
qui fait que du coup le rire va arriver en fait assez vite. Si évidemment on est tous là pour faire rire et pour passer un bon moment d'humour, comme c'est dit dedans.
Une bonne tranche de rire.
Une bonne tranche de rire. Bon ouais, mais je suis impressionné quand même, parce que encore une fois, je le redis ici, mais cette espèce de martingale qu'on cherche de jeu de rôle qui deviendrait jeu apéro, en fait on l'a, hein, ça fait depuis 2007 qu'elle existe, c'est ce jeu en fait. C'est hallucinant quand même. C'est-à-dire que Alors toi, tu te prends la tête, François, pourquoi tu fais des parce que non, parce que
Géraldine qui vient me mettre une cartouche en mode ouais, ça fait 20 ans. On est vieux, merci.
Ah ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est le jeu est à 20 ans. C'est incroyable. Mais c'est pas pour ça que on ne peut pas quand même refaire cette tentative. Et encore une fois, en essayant d'autres canons esthétiques. Là, vraiment, fond forme. On l'a bien dit, on l'a bien décrit. Mais effectivement, maintenant, ce qui serait vraiment un énorme enjeu, ce serait réussir à faire cet exploit-là, mais sur un truc peut-être plus dramatique, peut-être plus profond, plus intense. Est-ce que certaines murder parties n'y arrivent pas, je ne sais pas.
Ouais, mais est-ce que c'est pas le succès de ce jeu-là qui se prend pas au sérieux ?
Bah oui.
Le fait de plonger dans le jeu de rôle sans que tu t'y attendes vraiment.
C'est ça. C'est ce qu'a dit Julia. Pardon, vas-y.
Non, je t'en prie, parce que du coup, il y a un niveau de préparation en amont qui est zéro. Enfin, tu trie les cartes, les cartes excuses, les cartes
pas d'exigence,
interaction entre guillemets. et une cape pour le maître du jeu. Si t'en as une, si t'en as pas, c'est pas grave. Et puis c'est parti. Enfin, tu vois, où tu nous expliquais, Alex, les règles en 5 minutes. Et on... Tu vois, ça motive à jouer vite et à te mettre dedans.
Tout à fait. Julia.
Ouais, moi je pense que c'est ça en fait la clé de ce truc. Parce que tout à l'heure vous parliez de peut-être création de personnages et tout. En fait, dès qu'on rentre déjà dans ce truc-là, on met de... Comment dire ? On met de l'affect, on crée un perso, on s'y attache et tout de suite ça rend les choses beaucoup plus importantes. Et il y a... Je sais pas, je trouve qu'il y a moins ce côté détaché et un peu... je trouve pas trop mes mots, mais plus ouais, voilà, merci Flavie. Plus léger. Qui fait qu'on peut rentrer dans un perso pour une partie et en fait on s'en fout de
il est jetable en fait.
Exactement, il est jetable et on n'a pas besoin de plus.
Non, en plus
c'est un mouchoir.
Ouais, ok. C'est un peu l'image de toute façon des mignons qui se ressemblent tous.
C'est
10 gobelins autour d'une table, 10 mignons de moi moche et méchant. Ouais, ou, tu vois, c'est les mêmes. Ouais. C'est juste, ils ont des prénoms différents et encore, mais c'est tout quoi.
Flavie. Ouais.
Soren, lui, il a joué le même personnage tout du long, c'était le stagiaire. Et lui, je crois qu'il s'est vraiment attaché à son personnage.
Oui, mais lui, il était en convergence, y compris de lui-même. Puisque tu l'as décrit comme un stagiaire de cinquième qui vient...
Je te l'ai dit, mais si tu continues comme ça, tu vas voir ce que je vais te mettre dans ton rapport de stage.
Ouais, c'est marrant ça.
Mais c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que c'est toi qui lui a donné ce rôle de stagiaire, ou Alex, c'est Alex qui lui a donné ce rôle de stagiaire, lui-même qui l'a créé, qui s'est dit moi je vais être le stagiaire de votre groupe, non. Et en fait de fait tous les uns les autres, on a aussi créé ces rôles là genre ah bah c'était ton cousin, ou c'était ton frère. Donc en fait
il faut quand même se renvoyer la balle, il faut balancer une petite miette pour que l'autre s'en saisisse et puisse rebondir et...
mais du coup ça fait partie de l'improvisation, ce qui est moins évident pour les autres joueurs si toi t'as déjà créé ton lore avec ton background et tout.
Après bon voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément créer un lore, mais on peut dire comme tu disais Flavie, voilà, une race, une classe.
Oui,
mais déjà juste ça, hop, ça te ferme un peu des trucs, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Et puis les cartes aussi, le fait qu'on veuille jouer nos cartes, ça fait qu'on doit toujours presque réinventer des nouvelles directions. Et donc dans le fond, si l'un d'entre nous dit un truc pas intéressant, obscène, malaisante, c'est les trois fameux trucs du blocage de... c'est pas très grave, en fait. Tu vois, c'est pas dramatique, quoi. Tu vois, c'est pas... C'est ce qu'il y a... Oui, on a eu de l'obscène, c'est ça que... Mais ça nous plaît bien.
La première partie, t'as loupé un bout de la première partie. Entre moi et Flavie, niveau obscène, je suis plutôt jolie.
Entre obscène et malaisant, laisse tomber, on est allé au Potter à fond.
Okay.
Entre les succubes, les machins.
Mais les cartes qui sont clairement faites.
Je me suis tapé des cartes hyper suggestives avec des meufs dessus. J'étais là.
Bon, Igor, il va être pervers.
Et hop, personnage.
Là aussi, le jeu, il a son âge, hein, male gaze total hein, sur le jeu. Clairement, les filles qui montent, les meufs qui sont représentées, elles sont toutes en petite culotte et en soutien-gorge. Les hommes, ils sont en armure et bien couverts.
Il n'y a pas un prince charmant, un peu blond, un peu torse nu, il n'y a pas quoi.
J'ai regretté le Conan en slip. Il n'y a pas de Conan en slip. Ça, c'est vraiment dommage parce que quand même.
Mais tu pourrais créer tes propres trucs. Tu pourrais très bien créer des extensions toi-même.
Bah, Conan en slip, des cartes de panthère. Je veux dire, je veux des hommes huilés, je veux quelque chose. Je veux quelque chose qui me rappelle Shiryu.
Moi, je suis d'accord. Hein. La sexualisation, si ça inclut les hommes, dans la mesure où je suis une bonne vieille cisgenre, ça me pose pas de problème.
Non, mais voilà, tu vois, je veux dire, le jeu, il a son âge aussi de ce point de vue-là. Puisque tu cherchais des critiques négatives, Alex a formulé au jeu.
S'il y en a des critiques négatives, il n'y a pas que le male gaze hein, dans les cartes. Il y a aussi un petit peu de racisme, on va être très clair. Hein. Je pense qu'il a...
J'ai pas vu.
Je pense que le seigneur asiat, ouais. T'es là, waouh.
Le sorcier occidental.
On a joué dans Tintin. Enfin,
attends, pardon. Tu te fous de ma gueule.
Ah non, il y a le sorcier oriental bon, qui est un gobelin, mais avec des yeux bridés. Quoi.
Ah, mais je croyais que ça venait de vous.
Non.
Je voulais pas en parler dans le podcast, je dis bon.
Il a quand même son âge, faudrait voir le, pour le refaire.
Ça vient
un peu
du jeu, en fait.
Après, ah non, mais des... on n'est pas raciste de base, en fait. Hein. Quand on décrit le truc, c'est que t'es là. Bon, alors comment je le décris? Bon, eh ben, c'est parce qu'il y a le, bah, il y a le sorcier oriental.
Oh putain.
Ah oui, d'accord.
François, on dirait bien les personnages dans Lucky Luke.
Fais voir, attends, fais voir.
On dirait Lee Pressing, c'est ça ?
Ouais, Lucky Luke aussi, c'est pas
délire.
Mal, hein. Mais par contre, tu parlais de refaire le jeu, je regardais sur, sur Romaric.
Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc là, en plus, il a un nom, Nia quelque chose. Ah oui, là, c'est nickel, 100% résultat. Tu disais un truc intelligent,
oui,
François.
Pour une fois. Non, Fabie parlait de refaire le jeu, mais tu m'as envoyé il y a quelques jours la photo du jeu auquel on allait jouer. Donc, c'était ça, mais ouais, c'était pas cette version-là. C'était une version vert, c'est marqué édition vert ou je sais pas quoi.
Okay.
Et il y a une autre édition qui est rouge. En fait, ça se trouve, c'est peut-être le jeu remis au goût du jour aussi.
Mmh.
Alors, peut-être avec moins de...
Oui, parce que toi, tu disais en rigolant, en préparant le podcast, que t'avais joué à la version rouge.
Mais oui, parce que moi, je me souvenais
comme dans Pokémon,
rouge,
il y a deux
tu vois, et
c'est ou alors,
c'est
il y a peut-être
a
des persos en plus, tu vois. Si ça se trouve, il y a des personnages en
mais
plus.
Mais voilà, tu vois, là, par exemple, il y a la photo que t'as envoyé. C'est pas du tout le même, même le même design, même chara-design.
C'est un
Matago. C'est vachement plus moderne en termes de dessin.
Bah voilà.
Et si ça se trouve, bah c'est peut-être un peu moins... Un
c'est
peu
Matago. Matago, oui, donc ça doit être ça.
Ça serait deux versions essayées, tu vois. Ça se trouve, il y a des cartes différentes et peut-être un peu moins de personnages dénudés. Ouais.
En tout cas, pas le au-delà de toutes les critiques et de toutes les limites qu'on a sur l'emballage du jeu, moi, ce que je vois surtout et ce qu'on analyse surtout à la cellule, c'est d'abord le dispositif. Et ce qu'on peut dire là, c'est qu'en termes de dispositif, c'est un succès critique. Après, alors là, ils sont en train de s'échanger les cartes les plus racistes et les plus dégueulasses. Et moi, je vais les voir aussi, là. C'est scandaleux.
C'est la même. C'est juste que c'est tellement outrageant que dès là... Okay. Mais monsieur Tintin, quoi. Enfin, okay.
C'est quand même bien de le préciser à la fin de cette émission, parce que je pense que les gens vont se dire « Oh, la cellule a trouvé ce jeu trop bien et tout. » Et le premier, ils font « Ah oui, d'accord. Ok. »
C'est vrai, c'est toujours des trucs à remettre dans le contexte d'une époque aussi où on faisait moins attention à ce genre de choses.
C'est pour ça qu'en fait, à un moment, je te dis, moi, quand je me suis tapé dans ma main toutes les cartes avec des nanas dénudées, j'étais là, bah, pfff. Mais j'imagine la personne qui s'est tapé la carte limite aussi, t'es là,
bon, bah. On va décrire ça.
Mais je me souviens qu'au départ, tu voulais ajouter un truc pendant ce
temps. En fait, je me dis qu'en même temps, on est des gobelins. Donc du coup, c'est pour ça que c'est que des femmes qui sont dénudées et tout.
Je pense que les personnages sont volontairement masculins dans le truc.
Je pense.
Ah, ok. Les mignons. Ouais. Mignons sont masculins, ouais. Ok.
Puis tu sers le maître des ténèbres aussi.
Oui, d'ailleurs,
c'était
quand tu l'as
la
joué...
maîtresse, moi.
Alors voilà, tu l'as choisi de
la
féminiser. Mais dans la
je l'ai
base...
féminisé, ouais. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai beaucoup aimé. L'un des mignons a dit que j'étais la déesse des ténèbres. Et j'ai dit, ça c'est bon, ça c'est validé. Si t'avais eu un jeton, je te l'aurais enlevé.
Mais t'as dit ça d'ailleurs, je t'enlèverais un jeton. Et finalement, tu l'as pas enlevé. Hein. Ouais, bon.
Elle avait commis une bêtise beaucoup trop forte.
D'accord. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était une époque où il y avait, dans mon souvenir en tout cas, les jeux de société, de plateau comme ça, étaient beaucoup pratiqués par joueurs de Magic / joueurs de jeux de rôle. C'était pas encore aussi démocratique et démocratisé qu'aujourd'hui, et donc c'était un peu.
Tu sais, dans le jeu de société actuellement, c'est pas encore hyper démocratique.
Si.
Moi j'ai joué récemment à un jeu et je peux te jurer qu'à un moment j'ai fini par dire. On peut peut-être dire il ou elle à un moment, parce qu'en fait ça s'adressait que aux garçons, et c'était dans le jeu Friends d'ailleurs, pour pas le citer, et j'étais là, s'il vous plaît, quand même, maintenant on a dépassé 2020.
Alors,
quoi,
je dis pas pour l'édition des jeux et tout ça, je te dis en termes de public aujourd'hui, et 50% des joueurs sont des joueuses, c'est une évidence. Je pense que le monde du jeu de société aujourd'hui rayonne à tel point que c'est tous les Français et toutes les Françaises aujourd'hui qui jouent à des jeux francophones, tu vois, enfin je veux dire, il n'y a pas de gens qui ne jouent plus aujourd'hui, quasiment. Il y a par quelques personnes de plus de 50 ans, c'est-à-dire des gens qui n'ont vraiment pas eu cette culture-là. Il y a vraiment, tout le monde joue. Donc forcément, par contre, en termes d'édition et tout, ça je ne dis pas. Hein, Puis de toute façon, je ne cherche pas à lui donner des excuses à ce jeu. Mais je dis juste que dans le contexte, ce type d'humour passait mieux aussi parce que on était entre mecs, voilà, et puis on s'en foutait. Et puis voilà quoi.
Boîte de couilles.
Mais effectivement, très très gros défaut et très grosse critique du jeu à côté de laquelle j'ai failli passer parce que moi je me suis contenté d'analyser le dispositif que je trouve encore une fois.
Ouais, puis moi j'ai regardé les cartes. Déjà, t'as fait qu'une partie parce que t'as eu un souci sur la première.
Ouais, j'ai eu
et sur la deuxième, en fait, j'ai regardé les cartes que t'as eues. T'as eu des cartes hyper polies avec la concierge.
Ah oui, moi j'ai eu que
toi,
des.
Toi, t'as eu échelle, ouais. T'as eu des trucs comme ça.
J'ai rien vu de nickel. Sexiste.
T'as eu l'épée intelligente.
C'est la première partie, c'est pour ça que j'en parlais. J'ai eu les succubes qui montent leur fesses là.
Oui.
Voilà. Et donc c'est là que c'est sur cette la base de cette carte là que je faisais ma première critique de tout à l'heure. Par contre, j'avais pas vu passer les étrons lamentables que vous venez de me faire passer. mais donc voilà. Bon bah merci beaucoup en tout cas Alex de nous avoir amené ce jeu raciste et sexiste.
Avec plaisir. Oh,
le
j'en ai plein dans mon placard.
Les premières versions non censurées. Puis je vois que ça marche bien, donc je vais continuer à en ramener. Hein. Il y a un public.
La prochaine fois, on joue à quoi comment ça s'appelle déjà?
Globalement, tu peux choper tous les jeux d'avant 2010, hein, t'inquiète. Hein.
Mais non, aujourd'hui, il y a
les mystères de Pékin.
Blanc manger
et
coco,
on est bien.
Et tout, c'est ça. C'est des dispositifs beaucoup
attention,
plus récents.
Attention, regarde bien. Là, 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 je n'entends rien. Je refuse d'entendre parler de ce genre de jeu.
Voilà, ok, d'accord, très bien. Non, mais bon, évidemment, c'est une boutade. Merci pour nous avoir amené cette Olni qui effectivement. Arrive à point nommé dans la ligne éditoriale de la cellule de cette saison. Donc merci à toi Alex, merci Julia, merci Flavie, merci Caro, merci Claire, merci G, merci François, à très bientôt tout le monde
et merci Romaric.
Portez-vous bien et surtout jouez bien, rigolez bien. Personne n'a dit au revoir.
Merci Seigneur des Ténèbres.
Vous avez dit au revoir les mignons là.
Oui, pardon.
Au revoir
Seigneur des Ténèbres.
Au revoir Seigneur des Ténèbres.